Puisqu'on est dans le sujet de SNC-Lavalin, Luc, on a au téléphone Pierre Paulus, qui est le porte-parole des conservateurs sur ce sujet-là.
Oui.
On a parlé hier de la démission de Jody Wilson-Raybould, du fait qu'elle a été envoyée aux anciens combattants sans qu'on comprenne pourquoi tout à coup elle avait cette espèce de démotion. Là, elle a fini
Énorme démotion. C'était un des plus gros ministères, un des plus stratégiques, et elle se retrouve à un des moins gros ministères.
Et tout le dilemme, c'est est-ce qu'en pourchassant SNC-Lavalin, on va pas tuer un fleuron et punir des employés qui n'y sont pour rien pendant qu'on a donné des briques quand même un peu à M. Duhaime, notamment l'ancien patron. Et on a au bout du fil M. Paulus. Bonjour M. Paulus.
Oui, bonjour à vous deux.
C'est quoi la position des conservateurs
là-dessus? Oui,
bonjour mon colonel. Ben écoutez, la position des conservateurs, c'est que premièrement, il y a deux sujets là. C'est parce que l'ingérence vue probable du politique dans le système de justice. Et l'autre côté, il y a la problématique de SNC-Lavalin, les accusations criminelles contre la compagnie. Il faut séparer les choses. Nous, ce qui nous interpelle actuellement, c'est de savoir est-ce que le cabinet de Justin Trudeau a intervenu politiquement auprès du judiciaire, auprès du système de justice. Donc, avec, premièrement, Mme Raybould, qui était procureure générale du Canada. Il y a également la directrice des poursuites pénales et criminelles du Canada, Mme Roussel, qui est là-dedans. Là. Donc, tout ce qui se passe autour de ça, c'est ça qu'on veut savoir. On veut faire la lumière là-dessus. Le cas de SNC-Lavalin, c'est le cas qui est dans la cause, mais il reste que ça pourrait être tout autre cas criminel actuellement qui serait débattu. Nous, c'est l'interférence politique dans le système judiciaire. C'est ça qui nous interpelle actuellement.
C'est plus important pour
est-ce
vous.
Que vous de... êtes conscient, est-ce que vous êtes conscient que vous allez peut-être tuer SNC-Lavalin en prenant cette position-là?
Non, probablement, ce qu'on est conscient, c'est que Justin Trudeau manœuvre très mal, a peut-être commis des actes qui sont répressibles en travaillant contre le procureur général du Canada. Là, actuellement, c'est comme je vous dis, pour nous, c'est sûr et certain que SNC-Lavalin, les employés d'SNC-Lavalin, on comprend très bien que c'est important, puis on compatit avec la situation. Mais il reste que là, il y a des accusations criminelles, c'est grave, il y a un processus judiciaire en place, puis là, l'interférence politique. Et c'est pour ça que là, dans 15 minutes, je m'en vais au comité de la justice avec mes collègues, puis on a une motion qui a été déposée, et on demande au comité de la justice du Parlement canadien de faire enquête là-dessus et de faire intervenir les gens concernés pour savoir ce qui s'est passé. Parce que là, c'est la première étape. La chose la plus importante, c'est de protéger le système de justice canadien. Si là, on est là puis on dit, bon, écoutez, c'est pas grave, on peut interférer, mais ça marche pas comme ça. Là, c'est la République de Banane qui fait ça. Là. Puis je vous rappellerai que dans le cas de Mme Meng, actuellement, avec la compagnie Huawei, on a fait quoi? Quand la Chine a demandé de revoir Mme Meng, on a dit non, c'est un état de droit le Canada, on a un système de justice, on peut pas intervenir. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, pourquoi dans un cas... On fait appel à l'état de droit, puis là, dans un autre cas, ben là, finalement, il faudrait passer à côté de ça et permettre aux politiques d'intervenir. Ça se fait pas, là.
On s'est doté d'une loi qui a été votée en bonne et due forme au Parlement sur ce qu'on appelle un accord de réparation, n'est-ce pas?
Oui. Puis c'est ce qui a été incorporé au budget l'année passée. Personne ne l'a vu passer parce que ça faisait partie d'un projet de loi omnibus qui, donc, cet aspect législatif-là a été inclus dans le budget. Il reste que là, actuellement, on peut avoir un débat là-dessus. On a des avis légaux. Il y a la presse ce matin, Joël-Denis Bellavance rapportait qu'en septembre, le service des poursuites pénales du Canada avait statué que cet accord-là de réparation n'était pas applicable pour SNC-Lavalin. Donc, vous voyez, là, ça, je ne veux pas entrer là-dedans, parce que c'est la justice, c'est le travail du système de justice de faire ces recommandations. Si cet accord-là, cette façon qui a été mise dans une loi, ne fonctionne pas pour SNC-Lavalin, c'est pas aux élus, c'est pas aux politiques de le décider. C'est le procureur, c'est la service des poursuites pénales qui s'en occupe.
Donc, et si on jette le bébé avec l'eau du bain, ça vous dérangera pas? Si Lavalin en crève, ça vous dérangera pas?
Pas du tout. Ça me dérange pour tous les employés. Ça me dérange les gens qui travaillent là, les professionnels qui travaillent pour SNC-Lavalin, les conservateurs du Québec, ça nous préoccupe grandement. Mais au-dessus de ça, nous, il faut se placer au-dessus de ça et voir est-ce qu'on accepte que l'ingérence politique intervienne dans le processus judiciaire. C'est fondamental. Si on est prêt à accepter que le cabinet du premier ministre peut interférer, tasser ce qui devrait être fait par la justice pour changer les choses alors que la loi le permet pas, on s'en va où, là? Nous, c'est pour ça que c'est très compliqué et c'est pour ça que je vous dis que SNC-Lavalin, il faut Je comprends qu'ils sont concernés, mais il faut mettre ça de côté pour l'instant. Notre préoccupation aujourd'hui, là, dans les prochaines minutes au comité de la justice, c'est de savoir si on peut avoir, savoir ce qui s'est passé. Madame Rebull doit avoir la permission de parler. Les gens qui travaillent au cabinet du premier ministre doivent avoir, de se faire demander de venir au comité de la justice et de dire ce qui s'est passé. Puis s'il n'y a pas eu d'interférence politique, s'il n'y a aucune interférence, puis que c'est une autre histoire qui fait que Madame Rebull n'est pas satisfaite de M. Trudeau, ben, on fermera le dossier. Mais il reste que là, pour l'instant, c'est ce qui est primordial.
Mais M. Paulus, le vrai débat de fond, c'est qu'est-ce qu'une interférence politique dans le système judiciaire? Et je m'explique. Si le ministre de la Justice siège au Conseil des ministres, est-ce que cette personne-là est sourde, aveugle et muette? Je veux dire, c'est parce qu'une interférence signifierait... Je t'ordonne... Non, mais colonel, laissez-moi finir, colonel. Si la personne qui est ministre de la Justice, on peut même pas y parler pour y dire, regarde donc un peu dans telle direction, là, puis on va respecter ta décision. Je vois pas. C'est là qu'il est le débat, fondamentalement.
Oui, mais là, le débat, ce qu'on veut savoir, est-ce que on a fait plus que demander un avis et est-ce qu'on a dit, fais ça? C'est là qu'on a un problème, parce que la ministre de la Justice est également procureur général. Et en tant que procureur général, c'est pas le même statut qu'un autre ministre. Le procureur général du Canada est là pour défendre le système de justice. Donc, si le cabinet du premier ministre ou le premier ministre lui-même a imposé une façon de faire ou a fait de fortes pressions pour aller dans une direction, c'est là qu'il y a un problème. Parce que c'est différent que de demander un conseil ou de discuter autour d'une table du cabinet. Là, si le procureur général se fait imposer et qu'elle a dit non, moi, je veux pas embarquer dans votre jeu parce que c'est pas légal, ça correspond pas à ce que la directrice des poursuites pénales nous dit. C'est là qu'il y a un os, mais là, on spécule. C'est pour ça qu'on veut savoir, et c'est pour ça que là, dans 10 minutes, je vais être au comité de la justice et que j'espère que les libéraux autour de la table vont accepter notre motion, ils vont accepter d'entendre les témoins. Puis ça, c'est pas partisan. Là. Les libéraux, c'est de dire qu'on fait de la partisanerie, mais pour nous, la justice est au-dessus de la partisanerie.
Je suis d'accord avec vous pour ce qui est de la transparence. Je suis amateur de transparence, M. Paulus. Cependant, je veux pas m'empêcher de penser que si des gens ont commis des actes répréhensibles chez Lavalin, il faut punir ces gens-là sévèrement. Moi, quand je vois qu'on a lâché 15 accusations, qu'on a déposé 16 accusations, mais qu'on en a retenu seulement une à la fin dans un deal quelconque, ça me choque bien plus. Cependant, quand on poursuit une compagnie, dans le fond, on punit tous les gens honnêtes qui travaillent dans cette compagnie-là, bien plus que ses dirigeants.
Puis là-dessus, là, Mme Segal, je suis d'accord avec vous. En tant que citoyen, en tant que Québécois, là, je suis pleinement d'accord sur cet aspect-là. Mais il reste que là, on a un système de justice. Puis la politique et la justice, nous, on vote les lois, puis le système de justice les applique. Et actuellement, les lois en place, s'il n'y a pas de loi en place pour aider la cause de Lavalin, on ne peut pas interférer. Les libéraux ont essayé d'incorporer une loi. Ils ont incorporé une modification au code criminel en mars dernier au budget. Mais là, on croit comprendre que ça ne fonctionne pas pour la cause. Mais nous, là, on ne peut pas intervenir. On ne peut pas rien faire parce que la loi est comme ça.
Pourquoi ça ne fonctionne pas pour la cause? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne pourrait pas s'appliquer, selon vous, à la SNC-Lavalin?
C'est là, actuellement, ce qu'on a su, ce qu'on sait, que les avocats, l'évaluation des avocats sur l'accord de règlement, l'accord de... Je cherche le mot, j'ai le terme en anglais, là, BPA. Oui.
Mais,
L'accord de réparation qui a été mis en place l'an dernier pour permettre de donner une forme de pardon aux entreprises pour ne pas les accuser criminellement. De ce qu'on lit dans la presse ce matin, c'est que ça a été déterminé que ce n'était pas applicable pour SNC-Lavalin, compte tenu des accusations qui sont données à l'étranger. Donc, cette loi-là permet de protéger les entreprises au Canada.
Ce serait applicable si la corruption s'était appliquée au Canada, mais vu qu'on a corrompu des éléments étrangers en Libye, là, ça ne devient pas applicable.
C'est ça, c'est ce qui est dans la loi.
C'est l'interprétation qui est donnée, mais c'est pas... je l'ai lu, M. Paulus, et c'est pas si clair que ça, mais j'avoue qu'il y a effectivement quelque chose que je n'avais pas réalisé, que j'ai vu ce matin là, pour la première fois.
Une référence à l'article 3.4 de la loi sur la corruption d'agents publics étrangers. Donc, le poursuivant ne doit pas prendre en compte les considérations d'intérêt économique national. Compte tenu que... Mais là, comme je vous dis, moi, je suis pas juge, je suis pas un avocat, je suis celui qui fait les lois, puis les lois qui ont été votées, c'est ces lois-là. Donc, c'est pour ça que là, on revient encore une fois au cabinet. Qu'est-ce qui s'est passé au cabinet? Pourquoi Mme Rebull a été démise de ses fonctions de procureur général, ministre de la Justice? Pourquoi aujourd'hui elle a démissionné du cabinet? C'est là qu'on veut savoir. C'est ça. La clé, là, c'est de savoir ce qui s'est passé, puis elle doit parler. Puis les médias anglophones partout au Canada, ce qu'on voit, c'est l'image de Mme Rebull qui dit, peut-elle parler, s'il vous plaît, hein?
En tout respect, quand on regarde le concept de l'accord de réparation qui, au fond, a été copié de ce qui se fait aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, enfin, il y a un certain nombre de pays, vous avez parlé d'un pardon. Ce n'est pas un pardon. C'est une suspension des... C'est une nuance, mais elle est importante.
Effectivement.
C'est une suspension des accusations. C'est ça que
moyennant des réparations qui se comptent en millions de dollars.
En centaines de millions. Centaines de millions de dollars.
OK. Ben merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on laisse aller M. Paulus à son rendez-vous.
Mais la clé, comme je vous dis, la clé, c'est important, c'est de savoir ce qui s'est dit au cabinet, puis pourquoi que Mme Raybould est rendue qu'elle a démissionné.
Vous savez, la clé, là, c'est de sauver les principes contre les avocasseries.
C'est la loi qu'il faut pas oublier.
Oui, mais la justice et la loi parfois prennent des distances l'une par rapport à l'autre. Merci.
On se reparle. Merci.
Au revoir.
C'est le problème, là.
Il est dans une drôle de position, hein, notre ami Paulus.
Ben, ils sont tous dans une drôle de position parce que ils ont une occasion de knock-outer Trudeau et j'ai l'impression que le plaisir du knock-out dépasse les conséquences de ce qu'ils vont faire.
Je pense que tu as raison, mais je constate aussi, Myriam, et ceci m'étonne, je le dis avec étonnement, que si on faisait un sondage, puis j'aimerais ça qu'on en fasse, j'aimerais que quelqu'un le fasse, là. Moi, je constate par les médias sociaux, par les chroniqueurs, par les diverses personnes à qui je parle, que la position que moi je défends, que tu sembles également défendre, enfin, je perçois que tu la défends aussi et que beaucoup d'autres défendent, dont le premier ministre Legault et d'autres, là, je sens que cette position-là est pas fortement appuyée au Québec. Il y a quelque chose chez les gens qui leur fait dire c'est des crottés qui payent. C'est que je suis pas sûr que les gens comprennent ce que cela veut dire. C'est ça l'affaire. L'affaire, c'est que le droit criminel mène ultimement à la prison. Mais tu peux pas mettre une corporation en prison, ça existe pas.
Mais tu peux
alors,
faire
t'es bien mieux d'aller chercher ton accord de réparation à 200-300 millions de dollars que de la mettre en faillite puis pas avoir une scène noire.
Tu vois, il y a quelqu'un qui me... Puis j'ai eu beaucoup de courriels là-dessus. Je veux bien exonérer SNC-Lavalin, mais il s'agit pas de les exonérer. Ils reconnaissent leur tort et ils compensent pour leur tort, mais il n'y a pas de procès criminel, donc ils sont pas interdits d'obtenir des contrats.
Voilà.
C'est ça.
Voilà.
Mais donc, je continue le courriel. Mais si l'ancien vice-président contrôleur de SNC-Lavalin obtient un arrêt de procédure dans son dossier de corruption en vertu de l'arrêt de Jordan, ça enverra un drôle de message au niveau de la justice. Ça aussi, là, ça a été le problème. Tu vois, on a lâché des accusations contre Pierre Duhaime. Tu sais, il est accusé 16 fois, puis ils ont dealé pour une seule accusation. Là, il y a l'arrêt de Jordan qui plane sur un autre accusé. Là, on a l'impression qu'ils vont tous y échapper. Puis c'est un peu ça qui a l'air de choquer les gens.
Il y en a qui l'ont payé quand même un peu. Il y en a plusieurs qui l'ont payé, un certain nombre.
Tu vois, il y en a un autre, Michel, qui nous écrit, si ton entreprise est grosse, on passe l'éponge. Mais une PME ou un individu qui effectue les mêmes gestes doivent être poursuivis. Sans souci de préserver des emplois. Donc, tu dois te tu as le droit de corrompre si tu as 10, 20 000, 50 000 employés, mais la poursuite au criminel, si tu es une PME, il n'y a pas de problème.
Je comprends les émotions de la personne qui écrit ça, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'elle dit, si tu es un individu qui a une PME, non, l'individu n'est pas touché dans ça. Ce dont on parle, c'est une poursuite au criminel contre une personne morale, c'est-à-dire une corporation. Tu les poursuis au criminel. Tu peux obtenir des amendes extraordinairement élevées, mais jamais autant que dans un accord de réparation, et surtout dans le processus, comprends-tu, la compagnie peut faire faillite, et je termine avec un fait là, qui est nouveau. Standard & Poor's, la grande firme de cotation, vient de baisser la cote de crédit de SNC-Lavalin. Ça veut dire que leur coût d'emprunt n'arrête pas d'augmenter. Et en même temps, SNC-Lavalin vient de donner deux avertissements sur ses profits. Son action est en chute libre. Alors, sachez que c'est ça là, à quoi on fait face.
Quelqu'un qui me dit, si au moins les coupables avaient été identifiés ou condamnés, on serait peut-être plus conciliant avec l'entreprise. Mais on a l'impression que tout le monde va échapper à la justice dans cette histoire-là. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit, c'est Luc cette fois-ci, avec les libéraux, rien n'est illégal, tout est juste irrégulier. Les immigrants, c'est irrégulier, la corruption, c'est irrégulier, etc. Quelqu'un qui m'écrit également pour connaître...
Drôle de commentaire.
Pour connaître le fond de ma pensée, SNC-Lavalin, la gangrène est dans cette compagnie côté corruption. Si il vaut mieux la défaire et la refaire à neuf, c'est parce que reconstruire une réputation...
Ça n'arrivera pas, ça. ce qui va se passer, puis ça peut arriver pas mal vite, là, c'est qu'il va avoir ce qu'on appelle une offre d'achat hostile qui va venir d'un des grands groupes américains ou européens, puis ils vont offrir une prime de, je sais pas moi, 20% sur le cours de l'action à l'heure actuelle, puis ils vont acheter la compagnie. Et tout ce qui est fonction administrative, tout ce qui est fonction corporative, tout ce qui est centre de décision réelle, va disparaître du Québec et du Canada en entier.
Un autre auditeur nous dit, on doit punir la corruption, le Québec est mal vu à travers le monde à cause de ça, il faut rectifier l'image du Québec. Et un autre ajoute, votre position concernant SNC-Lavalin, c'est comme les gens qui disent, mon oncle taponne les petites filles de la famille, mais on parle pas parce que ça risque de briser la famille. C'est un peu raide comme accusation, là.
Ouais, ben je dirais que c'est un peu boiteux, mais, disons bancal. Comme
mais tu as raison, on a une majorité d'auditeurs qui pensent qu'il vaut mieux achever Lavalin.
Je voudrais voir un sondage, on dirait que la majorité des Québécois veut ça. J'y peux rien, c'est la démocratie, mais je pense qu'il y a également une incompréhension dans cette approche-là.
Mais il y a aussi le fait que la justice semble pas avoir fait sa job avec les dirigeants. Ça,
c'est de la perception. C'est la perception.
Oui, 13 heures.